voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Si vous écoutez cette émission à voix lue, c'est sans doute parce que vous aimez les beaux textes des grands écrivains de la littérature française. Et dans cette rubrique, l'auteur caché, Fernand Guillot et moi-même, nous vous proposons de vous amuser à tester vos connaissances littéraires. La règle du jeu est simple. Je vous donne 10 indices biographiques sur notre auteur caché. Fernand Guillot vous lit 10 lignes d'extrait et en moins de 10 minutes, vous aurez trouvé le nom mystérieux. Rassurez-vous, il s'agit d'un auteur très connu et qui fut bien sûr académicien. Vous êtes prêts ? On commence par un premier indice. La date de naissance de notre auteur caché, car elle vous situe l'époque à laquelle il appartient. Il est né à Elbeuf, en Normandie, le 26 juillet 1885. Mais à cette date, il porte le nom paternel. Son père est un industriel alsacien d'origine juive qui avait choisi la France, Herzog. Émile Herzog. Vous avez donc compris que notre auteur caché deviendra un écrivain et académicien célèbre au XXe siècle sous un nom de plume. À vous de le trouver. Voici un deuxième indice. Surprise, il commence à écrire en rédigeant ses bulletins d'officier de liaison auprès de l'armée britannique durant la guerre, la Grande Guerre évidemment, celle de 14-18. Et juste à la fin de la guerre, en 1918, cette expérience lui inspirera le thème de ses deux premiers livres qui seront un succès, Les silences du colonel Bramble et Les discours du docteur O'Grady. Voulez-vous goûter le style de l'écriture de notre auteur caché ? Ça fera un troisième indice. Il a un arrière-goût de thé à 5 heures, une saveur toute anglaise. La scène se passe en 1914 dans le quartier général britannique en Flandre. Aurel est un interprète jeune et cultivé. Et le capitaine Beltara est un peintre assez connu.
Le capitaine Beltara et l'interprète Aurel devinrent vite inséparables. Ils avaient des goûts communs et des métiers différents. C'est la recette même de l'amitié. Aurel admirait les croquis où le peintre notait les lignes souples de la campagne flamande. Beltara jugeait avec indulgence les rimes assez pauvres du jeune homme. « Vous devriez faire des portraits ici, mon capitaine, cela ne vous tente pas ? Il me semble que ces chairs d'anglais si bien colorées par le soleil et le choix heureux de leur boisson, eh ben oui, mon cher, c'est une jolie matière, mais je n'ai pas ce qu'il me faut. Et puis, accepterait-il de poser ? Autant que vous voudrez, mon capitaine, je vous amènerai demain le petit Dundas, l'aide de camp. Il n'a rien à faire, il sera enchanté. » Le lendemain, Beltara fit du lieutenant Dundas un croquis aux trois crayons. Le jeune aide-de-camp posa assez bien. Il exigea seulement qu'on lui permît de s'occuper, c'est-à-dire de pousser des cris de chasse à cour, de faire claquer son fouet favori et de parler avec son chien. « Oh !» dit Aurel à la fin de la séance. « J'aime beaucoup ça, beaucoup, beaucoup, vraiment, c'est à peine indiqué. Il n'y a rien et toute l'Angleterre est là-dedans. » Avec des gestes rituels de l'amateur de tableaux qui caresse d'un mouvement circulaire de la paume des détails excellents, il loua la naïveté et le vide des yeux clairs, le doux éclat du teint et la candeur charmante du sourire.
Quatrième indice, et vous l'avez compris, notre auteur, bien qu'ayant été au lycée à Rouen, élève du philosophe Alain, et bien qu'ayant passé sa licence en lettres classiques, est parfaitement anglophone, angliciste même, au point que l'on compte parmi ses œuvres une histoire d'Angleterre dont le style est si élégant qu'on la lit avec plaisir, comme on lirait une belle histoire, mais il écrira aussi une histoire des États-Unis et une histoire de France. Cinquième indice, notre auteur caché commence sa carrière d'écrivain par une littérature romanesque, qui plaît beaucoup d'ailleurs. Ses deux romans, Climat, paru en 1928, et Le Cercle de Famille, paru en 1932, séduisent d'innombrables lecteurs et lectrices, de même que ses contes, ses nouvelles, ses œuvres pour enfants et même des œuvres de science-fiction et de nombreux essais. Sixième indice, mais c'est surtout comme biographe qu'il atteint la notoriété. Il excelle, en effet, dans les biographies. Il publiera d'abord la vie d'homme célèbre, britannique, Ariel ou la vie de Shelley, la vie de Disraeli, Don Juan ou la vie de Byron, la vie de Sir Alexander Fleming, Édouard VII et son temps. Et ses biographies lui valent la célébrité outre-Manche et à l'étranger dans tous les pays de langue anglaise, fait rare pour un écrivain français. Septième indice, à la veille de la guerre, de la Seconde Guerre cette fois-ci, le 23 juin 1938, il est élu à l'Académie française au fauteuil 26, précédemment occupé par René Doumic. Ce fauteuil a la réputation d'assurer une belle longévité à ses occupants. Peut-être est-ce vrai, puisque notre auteur mourra en 1967 à l'âge de 82 ans. Il aura donc siégé à l'Académie durant 29 ans et deviendra, au sein de cette compagnie, un membre influent. Voici ce qu'il écrit à propos de sa réception à l'Académie française.
Une réception à l'Académie est une des plus belles cérémonies françaises. Tout concourt à sa grandeur. L'ancienneté de l'édifice, l'étrangeté de sa forme, l'exiguïté de la salle, la qualité du public, l'appareil militaire, le vocabulaire traditionnel et parfois la qualité de l'éloquence.
Huitième indice, au fil des années, il consacrera donc des biographies aux grands écrivains et personnages français, Lyautey, Voltaire, René ou la vie de Chateaubriand, À la recherche de Marcel Proust, Les Trois Dumas, Prométhée ou La vie de Balzac et bien d'autres encore. Attardons-nous un instant sur l'une de ses biographies, Olympio ou La vie de Victor Hugo, paru en 1954. Notre auteur explique ainsi son choix dans une note liminaire.
Pourquoi Hugo ? Je n'ai pas ici à invoquer des intercesseurs. J'avais été amené à George Sand par Marcel Proust et par Alain. Je ne me souviens pas d'un temps où je n'ai pas admiré Victor Hugo. Je ne savais pas lire que déjà j'écoutais avec émotion ma mère nous réciter Les Pauvres gens. À 15 ans, Les Misérables me bouleversaient. Toute ma vie, j'ai découvert de nouveaux aspects de son génie. Comme tant de lecteurs, je n'ai compris que lentement la beauté des grands poèmes philosophiques. J'ai appris enfin à aimer les derniers vers du vieil Orphée et à trouver dans toute la lyre, dans les années funestes, dans Dernière gerbe, des chefs-d'œuvre presque inconnus. Pourquoi Hugo ? Parce qu'il est le plus grand poète français et parce que la connaissance de sa vie est nécessaire pour comprendre ce génie tourmenté. Comment cet homme prudent, économe, fut en même temps généreux ? Comment cet adolescent chaste, ce père de famille modèle, devint un vieillard faunesque. Comment ce légitimiste se transforma en bonapartiste, puis en grand-père de la République. Comment ce pacifiste chanta mieux que personne les drapeaux de Wagram. Comment ce bourgeois, aux yeux des bourgeois, passa pour un rebelle. Voilà ce que tout biographe de Victor Hugo doit expliquer. De nombreuses découvertes ont été faites sur lui depuis quelques années. Beaucoup de lettres et de carnets ont été publiés. J'ai entrepris de faire la synthèse de ces documents épars et tenté d'en faire surgir un homme. Bien que ce livre contienne de nombreux textes inédits, lettres de Victor Hugo à Madame Biard, à sa belle-fille Alice, à ses petits-enfants, au comte de Salvandy, au colonel Charras, lettres d'Adèle Hugo à Théophile Gautier et d'Auguste Vacry à Adèle Hugo, extraits des carnets de Sainte-Beuve, lettres d'Émile Deschamps à Victor Hugo, de Léopoldine Hugo à son père, de James Pradier à Juliette Drouet, etc. Ces révélations n'ont pas été mon objet principal. En fait, j'ai renoncé à introduire dans ce livre un grand nombre de lettres en elles-mêmes intéressantes, parce qu'elle n'ajoutait rien d'essentiel. Il faut se garder d'enterrer le héros sous les témoignages. Je n'ai pas voulu non plus alourdir le récit d'essais sur la poétique, sur la religion, sur les sources de Hugo, études que d'autres ont faites et bien faites. Bref, j'ai écrit une vie, rien de plus, rien de moins, en m'efforçant de ne jamais oublier que dans la vie d'un poète, l'œuvre tient autant de place que l'événement.
Je voudrais seulement signaler pour nos auditeurs, Fernand, que ces biographies de notre auteur, celle de Hugo, celle des trois Dumas, celle de Balzac, sont réunies en un seul volume de la collection Bouquins chez Robert Laffont, et avec une préface rédigée par Robert Kopp, qui est correspondant de l'Institut. Passons au neuvième indice, au cinéma. Sachez que notre auteur caché a traduit les dialogues de Noblesse oblige, le fameux film avec Alec Guinness, et que son roman Climat a été porté à l'écran grâce à Stelio Lorenzi. Mais restons encore un instant en compagnie de notre biographe, et cette fois pour écouter ce qu'il écrit à propos de George Sand.
George Sand avait été, comme toute femme, fille de la terre. Plus qu'une autre, sans doute, par son enfance discordante, cette lutte en elle de deux classes et de deux siècles, par cette liberté précoce et par la douloureuse expérience d'un mariage indigne de son génie. Oui, sa vie avait été manquée comme est toute vie, mais grandement. Elle avait attaché peu d'importance à son œuvre, sa véritable recherche ayant été celle de l'absolu, d'abord dans l'amour humain, puis dans l'amour du peuple, enfin dans l'amour de ses petits-enfants, de la nature et de Dieu. Pourtant, de cette œuvre dont elle parlait avec tant d'humilité, une belle part reste vivante. George Sand est immortel par Consuelo, œuvre Pascal. Oui, mais aussi par son journal intime, par les lettres d'un voyageur, par cette immense correspondance, si aisée, si juste de ton, si ferme de pensée, et par la vérité permanente de ses idées. On a beaucoup blâmé ses aventures amoureuses, mais l'acharnement haletant de sa recherche s'explique par la perfection introuvable qu'elle poursuivait. La vie de Sand fait penser à ses romans de Graham Greene où, pendant 300 pages, un héros malheureux commet tous les péchés et où le lecteur découvre dans l'ultime paragraphe que c'est le pécheur et non le pharisien qui sera sauvé. Les âmes de feu qui ont fait les grands saints avaient souvent connu d'orageuses jeunesses. Toute vie est portée par une métaphysique latente. La philosophie de Sand était simple. Le monde a été créé par un Dieu bon. Les forces d'amour qui existent en nous viennent de lui. Le seul péché sans rémission est d'apporter dans l'amour qui doit être communion totale des réticences et des mensonges. Je ne dis pas que Sand ait toujours vécu selon ses principes. Aucun de nous ne vit à chaque instant toutes ses idées. Mais il faut juger les êtres plus par leur dépassement que par leur défaillance.
Jolie formule. Alors, ce nom de plume, vous l'avez trouvé ? Un ultime indice, mais c'est vraiment le dernier. Notre auteur caché a choisi de porter le prénom d'André et le nom d'un village du nord de la France. Cette fois, j'en suis sûre, vous l'avez reconnu, il s'agit d'André Mauroy, un maître en littérature dont je n'ai pu citer toutes les œuvres tant il a écrit, mais qui nous offre encore d'heureux moments de lecture et de relecture. Merci à Fernand Guillot qui a assuré les lectures de cette émission. Vous trouverez d'autres auteurs cachés sur le site de Canal Académie. Amusez-vous bien.